expliquer bonjour mes frères et bonjour mes sœurs. Mes bien-aimés, comment allez-vous ce matin? Ça va, vous avez passé une bonne nuit avec la grâce de Dieu, nous sommes heureux de nous retrouver. Enfin, je pense que c'est le cas pour vous parce que moi, en Jésus-Christ, je suis heureux de vous retrouver, n'est-ce pas? Et nous sommes heureux de nous retrouver dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a fait cette merveilleuse promesse à laquelle nous sommes attachés et qui, à chaque fois que Dieu permet que nous puissions en être bénéficiaires dans un rassemblement similaire, Jésus-Christ accomplit sa promesse. Non? Mais vous réagissez si peu que Jésus-Christ accomplit sa promesse. Il a dit quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous sommes heureux de ce que non seulement Jésus est au milieu de nous, mais une autre promesse, trouve son accomplissement à chaque fois que nous avons un rassemblement similaire. C'est Dieu lui-même qui a dit, lorsqu'il va promulguer au travers de son serviteur Jérémie, ce qui a une portée prophétique en ce qui concerne l'instauration de la nouvelle alliance, eh bien Dieu dira, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Et puis il rajoute, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Ce matin, Dieu notre Père Céleste est au milieu de son peuple et étant au milieu de nous ce matin, comme la parole de Dieu nous le rappelle, que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, de ses enfants, de ses rachetés. Et ce qu'il veut par-dessus tout pour nous ce matin, c'est entendre, en sondant nos cœurs et nos reins, de nos bouches, ce que nos cœurs contiennent à son égard, c'est-à-dire les actions de grâce qui consistent à lui dire merci pour ce qu'il a fait, merci de ce qu'un jour il s'est arrêté sur nos misères. Merci de ce que, selon le dessein bienveillant qu'il avait formé en lui-même, c'est lui qui nous a attirés des ténèbres à son admirable lumière. C'est lui qui, par le Saint-Esprit, nous a convaincus de péché, de justice et de jugement lorsque nous avons écouté le message de l'Évangile qui a permis que nous croyions pour notre salut. C'est encore lui qui a mis en nous les dispositions pour que nous puissions nous repentir de nos péchés, nous convertir à Dieu en acceptant Jésus comme sauveur et aussi en rejetant les idoles faites de main d'homme. Et puis c'est encore lui qui a continué dans cette merveilleuse entreprise de nous amener à l'obéissance pour passer par les eaux du baptême. C'est lui qui a envoyé le Saint-Esprit pour amener dans nos cœurs la réalité de cette nouvelle naissance dont nous sommes objets de sa part. Vous savez que l'apôtre Pierre va bénir Dieu. Il va louer Dieu dans le chapitre 1 de son livre. Il dira, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a régénérés pour une espérance vivante. Donc, lorsqu'il parle de régénération, c'est pour mettre en évidence la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit venant habiter en nous et étant venu habiter en nous, il n'est pas venu les mains vides. Excusez-moi du thème, il n'est pas très évangélique, mais elle est venue avec les attributs divins, c'est-à-dire les sentiments, la personnalité, le caractère de Jésus-Christ. Et c'est au travers de cette merveilleuse œuvre à l'intérieur de nous, en nous, dans l'homme nouveau, que Dieu a mis ce qu'on appelle les arts de l'esprit. Et tout le temps de notre pèlerinage terrestre, Dieu va continuer à partir de ce que le Saint-Esprit va développer en nous pour que de plus en plus, non seulement nous soyons à l'image du merveilleux modèle que nous avons à la personne de Jésus-Christ, mais aussi nous préparer à entrer dans son royaume. Mais oui, écoutez, l'apôtre aux Philippiens va mettre en évidence ce qui est dans son cœur. Il vient pas de lui, mais comme une persuasion divine développée par le Saint-Esprit. Je suis persuadé, dira-t-il, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Au quand? Pour le jour de Jésus-Christ. Vous avez dit que tout le temps dans notre pèlerinage terrestre, Dieu a commencé cette œuvre et il la continuera. Et je disais au bien-aimé, mardi dernier, que jusqu'à ce que nous rendrions le dernier souffle, il y aura toujours quelque chose que Dieu va se plaire à améliorer, à corriger, à rectifier en nous, pour que lorsque le temps arrive où nous fermons les yeux, eh bien, notre esprit, notre âme soit recueilli pour être amené dans le repos, mais que cela se fasse dans les meilleures conditions, c'est-à-dire terminant dans la foi. Dans la foi. Non? Eh oui, je termine dans la foi, car si je ne termine pas dans la foi, eh bien, je termine dans le contraire de la foi qui est l'incrédulité. Et malheureusement, je ne suis pas dans la bonne tranche, mais je veux terminer la course dans la foi. L'apôtre l'a dit à Timothée, prenons son exemple à lui. Pourtant, il a fait des choses extraordinaires de la part de Dieu. Il a expérimenté la puissance du Saint-Esprit à nul autre pareil. Il a expérimenté un transport en esprit qui est tellement glorieux. Il ne sait pas si c'est dans son corps ou hors de son corps, tellement l'expérience était glorieuse. Mais ce n'est pas ce qui est la priorité pour lui. Il aurait pu en faire référence dans ce qu'il donnait comme un peu le témoignage de sa vie, comme un bilan de ce qu'il a été. Non, j'ai combattu le bon combat. Alors j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Il n'a pas dit « j'ai fait des miracles, j'ai été ravi au troisième ciel, le Seigneur m'a exaucé plusieurs fois ». Si, il a expérimenté tout cela, mais il veut mettre en évidence ce qui est le plus important devant nous. Combattre le bon combat, achever la course et garder la foi. Alors désormais, dira-t-il, la couronne de justice m'est réservée. C'est-à-dire, il est en route pour obtenir ce qui lui a été promis. Désormais, le Seigneur, le juste juge, me la donnera non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui ont aimé son avènement. Et béni soit Dieu, nous sommes de ceux-là ce matin. Nous ne sommes pas l'apôtre Paul. Nous sommes ceux que nous sommes avec la grâce de Dieu. Mais c'est le même processus. C'est le même travail que le Saint-Esprit se plaît à réaliser en nous, pour que le temps venu, nous terminions la course dans de bonnes conditions. Ayant terminé la course terrestre, faisant ce que Dieu a préparé pour nous, nous efforçant de lui être agréable, comme nous sommes là ce matin, pour toujours apprendre de lui, et puis garder la foi. Garder la foi pour que lorsque le temps venu, eh bien, la couronne de justice qui nous est réservée, le Seigneur, le juste juge, nous la donne. C'est-à-dire, la récompense est la plus grande de toutes les récompenses, c'est celle qui est attachée à notre foi, qui découle de la parole de Jésus. Celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Frères et sœurs en Christ, que Dieu soit béni. Le monde religieux, nous le savons aujourd'hui, célèbre à leur manière la Pâque. Pour certains, pour d'autres, la Pâque c'est une tradition, on va manger du chocolat. Certains, la Pâque constituera le fait de manger de l'agneau. Tout ça, c'est pas mauvais. D'autres, Pâques, c'est parti en week-end. Et puis, pour d'autres, c'est certaines traditions auxquelles ils sont attachés aux Antilles chez nous. Eh bien, lorsqu'on parle de la Pâque, déjà, ça part depuis le Vendredi Saint où on mange pas de viande, on mange des acras. C'est pas mauvais. Puis, le lundi de Pâques, eh bien, ce sont des fricassés de crabe avec du riz, etc. Enfin, tout un programme qui va montrer que nous célébrons la Pâque. C'est bien, c'est pas mauvais en soi. Mais pour moi, ce matin, pour nous comme enfants de Dieu, la Bible nous dit que Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Et nous savons que derrière le sacrifice de Jésus, il y a tout le plan que Dieu a préparé, que Jésus est venu accomplir pour que la base de cette œuvre de rédemption parfaitement accomplie par Jésus-Christ, là où le jugement de Dieu devait tomber sur nous pécheurs, sa grâce nous a été proposée, nous l'avons acceptée, nous l'avons reçue, et Dieu a pu mettre en œuvre son plan béni pour la vie de chacun d'entre nous, selon le dessein bienveillant qu'il avait formé en lui-même. Alors ce matin, frères et sœurs en Christ, indépendamment de ce qui est religieux, nous savons que nous sommes entrés dans le plan de salut préparé par notre Père Céleste, et c'est pourquoi le Saint-Esprit ce matin, comme on le voit tout à l'heure, va nous amener à considérer l'aspect particulier qui découle de l'œuvre de Jésus-Christ, même si nous le savons, ce que la Bible nous révèle, c'est les souffrances de Jésus. On parle même concernant les souffrances de Jésus, on dit la passion du Christ, pour montrer les souffrances qu'il a endurées. Laissez-moi vous dire que derrière ce mot passion, car tout ce qui est passionnel, faut souvent être appelé à devenir, dites avec moi, fusionnel. Jésus nous a aimés et il s'est livré lui-même pour nous racheter. C'est-à-dire, en livrant sa vie, Dieu a permis qu'il puisse déjà s'identifier à nous en tant que pécheurs, mais pour détruire en nous non seulement la puissance, mais toutes les conséquences, dans lesquelles nous entraînait le fait d'être des pécheurs. Nous étions des pécheurs, donc nous étions perdus. Mais maintenant, par la grâce que Dieu nous fait, nous sommes toujours des pécheurs, parce que le péché habite en nous. Mais nous sommes des pécheurs sauvés. Et dans ce cadre-là, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, comme dit l'apôtre, c'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. En effet, la loi de l'esprit de vie qui est dans Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché. La loi du péché, elle est là. Le péché fait son travail dans ma vieille nature. Mais la loi a été réduite à rien par la puissance de l'œuvre rédemptrice de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, frères et sœurs en Christ, certes, il y a le Covid-19, il y a les épreuves, il y a tout ça qu'on est confronté, l'hostilité du monde, et tout ce que Satan déploie pour pouvoir nous arrêter, s'il était possible. Mais je me réjouis dans le Seigneur. Alors on comprend pourquoi l'apôtre nous exhorte à toujours nous réjouir dans le Seigneur. C'est pas par rapport aux contingences des choses terrestres qu'il faut se réjouir. C'est pas parce que ma vieille nature me crée beaucoup de difficultés. Elle s'use, elle se fatigue, elle se lasse. Mais la Bible me dit que l'homme nouveau en moi se bonifie à la mesure de celui, à l'image de celui qui l'a créé. Ça veut dire que dans l'homme nouveau, il n'y a pas de maladie. Mais dans l'homme nouveau, il n'y a pas de maladie. Car s'il y avait des maladies dans l'homme nouveau, j'aurais problème sur problème. Et j'aurais dû beaucoup de mal, de difficultés, à comprendre ce que Dieu me dit. Parce que s'il y a des difficultés qui se créent à partir de l'homme nouveau, je suis avec des problèmes multipliés par deux. Problème avec ma vieille nature, mais problème aussi avec ce qui se passe dans la vieille nature et dans l'homme nouveau. Non, l'homme nouveau est habité par le Saint-Esprit. Puisque l'homme nouveau est habité par le Saint-Esprit, il n'y a pas de péché dans l'homme nouveau. On dit que vous n'êtes pas convaincu de ce que je vous dis. Mais écoutez, si dans l'homme nouveau il y a quelque chose qui est comme une altération, ça ne marche pas. Non, Dieu a créé en moi un homme nouveau. L'homme nouveau a été créé en nous selon Dieu, dans une justice et une sainteté qu'a produit la vérité. C'est pas moi qui l'ai rêvé, hein? Justice et sainteté. Ça veut dire que la justice, c'est Christ. La sainteté découle de Dieu. Et c'est ce qui est dans l'homme nouveau. C'est l'homme nouveau qui est le futur candidat pour le ciel. Ma chair, c'est pour la terre. Pour la poussière. Parce que vous savez comme moi qu'au commencement de la création, après la transgression et le péché, Dieu a fait tomber son jugement sur Adam sous forme sentencieuse. La sentence est tombée. C'est avec peine que tu tireras ta nourriture de la terre d'où tu es sorti. Jusqu'au jour où tu retourneras la poussière, parce que tu es poussière et tu retourneras la poussière. Et le travail du Saint-Esprit, frères et sœurs en Christ, dans nous, c'est de nous rendre intelligents pour comprendre ces choses. Afin que nous soyons au rang de ceux qui, par l'intelligence renouvelée, faisons la différence entre ce qui est humain en nous et ce qui est divin. Et mon travail pastoral, c'est de vous l'enseigner comme le Saint-Esprit me le fait comprendre. Vous savez, Pasteur Maman me disait dans son bureau dimanche dernier, lors d'un petit partage, il me dit, Claude, ce que Dieu t'a fait comprendre, prêche-le. Mais ce que Dieu t'a pas fait comprendre, c'est pas la peine de le prêcher. Ça, c'est la sagesse même. Comment je peux venir vous essayer de vous faire comprendre, vous persuadant de choses dont moi je ne suis pas persuadé. Mais quand Dieu me l'a enseigné, je l'ai compris, je suis à l'aise pour le prêcher. Parce que ça vient pas de moi. Ça vient de ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre dans l'Écriture. Et c'est comme ça, frères et sœurs, en cause que la parole de Dieu se retrouve maintenant, active dans nos cœurs et dans nos vies. Parce que ce que Dieu me dit, il me le fait comprendre. Et quand il me le fait comprendre, c'est pas parce que ça reste dans ma tête. Ça descend dans mon cœur. Ça s'installe en moi. Et si ça s'installe en moi, le Saint-Esprit me permettra de vivre parce qu'il est installé en moi. Je vivrai par elles parce qu'elles sont vie en moi. Ah, vous connaissez le pasteur Gentil, avant même que je fasse les annonces pastorales, je suis déjà en train de vous enseigner. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, hein? C'est le travail du Saint-Esprit. C'est le plan de Dieu, mes frères et mes sœurs. Et tout à l'heure, je vais vous donner un peu dans ma relation avec le Saint-Esprit, ce que Dieu me faisait comprendre. C'est des fois, on a avec le Seigneur, on a notre relation, n'est-ce pas? On a nos entretiens. Et puis des fois, le Saint-Esprit nous conduit sur des terrains et nous dit des choses que nous n'aurions même pas pensé. Mais tout à l'heure, en descendant, le Seigneur me faisait comprendre, Claude, cette assemblée, cette église, c'est moi qui l'a bâtie. Et le Seigneur est allé plus loin, me dit, je la bâtis avec les instruments que moi j'ai choisis. Et même si certains s'offusquent que depuis des années, il ne sort pas beaucoup de ministères dans cette œuvre que Jésus bâtit, eh bien ce n'est pas la faute du pasteur. C'est Jésus qui sort les ministères. Et lorsque le temps venu où il a résolu de sortir un ministère, il le sort. Il n'en sort pas 10, mais lorsqu'il en sort un, c'est parce que lui, il a résolu qu'il sera un instrument dans sa main. Et pour ma part, depuis des années, quand le Seigneur m'a mis à part et qu'il a bien voulu me montrer dans sa grâce ce à quoi il me destinait, je n'ai pas crié sur les toits, je n'ai pas fait de grandes déclarations, je suis resté à ma place. Et je puis vous dire ce matin, j'ai dit, Seigneur, maintenant que tu me fais comprendre que tu m'appelles, alors maintenant, Seigneur, désormais, moi, je ne fais rien. Tiens, c'est bizarre, le Seigneur te dit qu'il t'appelle et tu fais rien. Non, j'ai dit, Seigneur, moi, je fais rien, mais c'est toi qui feras tout. Vous savez, frères et sœurs en Christ, servir le Seigneur, c'est pas n'importe quoi. Et c'est pourquoi je bénis Dieu si quelqu'un dans son cœur dit, moi, en tant que pasteur, j'en ai vu beaucoup venir me voir. Me dit, je veux servir le Seigneur. Ah, ils sont déterminés. Alors, je les écoute, je les regarde. Parce que quand vous me dites que vous voulez servir le Seigneur, la question que je me pose en retour, puisque vous voulez servir le Seigneur, est-ce que le Seigneur, lui, veut se servir de vous? Parce que avoir de bons désirs, tout le monde peut avoir de bons désirs. Mais je vous dis même que celui que le Seigneur veut utiliser, il ne fait pas de grandes déclarations. Plutôt, il serait au rang de ceux qui rentrent dans leur coquille. Saül, il était caché dans les bagages. Il a fallu qu'on aille le chercher. Lorsque Dieu appelle le prophète Jérémie au service, il lui dit, avant même que tu étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Et avant même que tu sortes du sein maternel, moi je t'avais établi prophète des nations, pour que tu plantes, que tu ruines, que tu bâtisses. Donc ce que Jérémie a fait, il n'a pas dit Alléluia. Il a dit, je ne sais pas parler, Seigneur, je suis un enfant. Je ne sais pas parler. Il lui a dit, ne dis pas tu es un enfant, car tu iras vers tous ceux vers qui je t'envoie, et tu leur diras tout ce que moi je t'ordonne de leur dire. Ce Dieu l'avait choisi pour porter, en quelque sorte, dans son ministère, l'opprobre d'Israël. Il a beaucoup souffert. Mais, arrivé à la fin de sa course terrestre, eh bien, même s'il fait mention dans les lamentations de son état de cœur, eh bien, il a une parole quand même qui, je crois, est un grand classique des Saintes Écritures. Je pense à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, l'état battu au-dedans de moi. Il a beaucoup souffert, mais il dira, mais voici ce qui me donnera de l'espérance.
c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Quand Dieu montre à son serviteur Moïse qu'il est appelé maintenant pour être autant le législateur que l'instrument qu'il va utiliser pour aller sortir son peuple de l'esclavage de l'Égypte, Moïse a dit « J'ai la langue embarrassée ». C'est-à-dire on se tourne toujours vers nos défauts et nos tares, on regarde en soi quand Dieu nous dit qu'il va nous utiliser, on regarde en soi. Et lorsqu'on regarde en soi, rapidement arrive la réalité de nos incapacités. Mais écoutez, Dieu sait mes incapacités, il sait tout ce qui est mauvais en moi, il connaît tout ce qui est mauvais, il le sait, mais il m'a choisi. Alors il va continuer son travail pour que de plus en plus, le bois soit recouvert par l'or. Le bois est recouvert par l'or. C'est-à-dire Dieu met ce qui est divin sur ce qui est humain. C'est là un aspect de son œuvre. Il commence, qu'il poursuit. De telle manière que lorsqu'on arrive au bout de la course, et on va le voir tout à l'heure, comme Dieu peut parler à son serviteur David, Dieu dira, j'ai trouvé en David le fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. C'est vrai, c'est Dieu qui rend le témoignage. Même, Dieu va rappeler, il l'a choisi et qu'il est non seulement objet de son alliance, mais que Dieu est intervenu dans sa vie, il lui a fait un serment de le bénir. Et pourtant, nous voyons dans une tranche de vie de David, il a commis une infamie qui méritait la mort par rapport à ce que la loi ordonnait, la lapidation. Alors, quand il y avait l'adultère, l'homme et la femme devaient être lapidés. Mais Dieu avait dit dans les clauses de l'Alliance, « Ma grâce ne se retirera pas de lui. » Et nous comprenons, frères et sœurs en Christ, que lorsqu'il a commis cette infamie, et quand Dieu a envoyé le prophète Nathan vers lui pour lui parler en prenant cette image que vous connaissez, eh bien, il a dit, un tel homme mérite la mort. Et pour avoir fait une chose similaire, eh bien, il devra payer combien de fois pour l'infamie qu'il a commis. Nathan lui dit, mais tu es cet homme-là? Et il n'a pas dit à Nathan maintenant, moi le roi, je vais m'occuper de ton cas. Non, il s'est humilié. Dans cette humiliation, il va dire à Dieu un petit peu son ressenti par rapport au fait qu'il a été entraîné. Parce que logiquement, en tant que roi d'Israël, l'année où les rois se mettaient en campagne, dans 2 Samuel 11, il devait être à la tête du peuple pour diriger les guerres de l'Éternel contre ses ennemis. Mais lui, il a envoyé Joab, le chef de l'armée, et puis le voici qui est dans son palais royal. Dans son palais royal, que se passe-t-il? Au lieu d'être couché dans son lit pour avoir une bonne nuit de repos, il se balade. Il se balade sur le balcon. Et à partir du moment où on n'est pas à son poste, faisant ce que Dieu veut que nous fassions, eh bien l'ennemi va toujours exploiter notre vieille nature pour nous donner des occupations qui seront tôt ou tard néfastes pour nos âmes. Eh bien pendant la nuit, voici qu'il voit au loin une femme qui se baigne. Et lorsqu'il voit cette femme se baigne, et je trouvais ça étrange, c'est la nuit, quand une femme se baigne, logiquement, il y a une certaine intimité, d'après moi. Mais pendant la nuit, il voit une femme qui se baigne, et la convoitise monte dans son cœur. Il est victime de la tentation qui l'entraîne. Et le travail de la tentation qui l'entraîne
Mais qu'il envoie quelqu'un chercher, après avoir pris des renseignements. Mais qui est cette femme? Il lui dit, mais n'est-ce pas la femme de Uri le Hittien? Ça veut dire, elle a un mari. Mais lui, il s'occupe pas de ce que la femme a un mari. La tentation, la séduction, s'est installée. Alors, il envoie chercher la femme de l'autre. On l'amène vers lui. Il couche avec elle. Et la femme, après s'être lavée de sa souillure, elle redescend dans sa maison. Mais la campagne de la guerre continue à durer. Et je lisais que Bathsheba est devenue enceinte. Donc elle a fait dire au roi, je suis enceinte. Donc après un rapport, il faut quand même un certain temps pour que la grossesse soit déclarée. Donc la campagne était de la guerre, continuait. Alors, voici que Monsieur David va envoyer chercher le mari, Uri le Hittien, le mari de Bathsheba. Il va le recevoir chez lui. Puis on lui dit, maintenant tu vas descendre chez toi, etc. Et puis il va lui-même lui donner un présent pour lui faire comprendre qu'il a de l'intérêt à ses yeux. Mais derrière toute cette entreprise, il veut essayer d'agir pour couvrir sa faute et faire en sorte que Uri le Hittien endosse la faute qu'il a commise. Mais Dieu voit tout cela et voit par quel esprit il est animé ou plutôt par quel esprit il est animé, son état de cœur et tout ce qui s'ensuit. Alors Dieu permet que Uri lui dise « L'armée de l'Éternel est en campagne et moi je descendrai dans ma maison, je coucherai avec ma femme. » Il n'a pas fait ce que le roi avait demandé. Alors, comme le roi a vu que son entreprise n'a pas réussi, alors il va aller plus loin dans l'infamie. Il va faire en sorte qu'il écrive une lettre à Joab, le chef de l'armée, et il demandera à Joab de mettre Uri au fort du combat. Cela s'appelle de la préméditation. Et Uri, au fond du combat, défendant avec vaillance le peuple de Dieu, combattant, et malheureusement, il va connaître la mort. Et lorsqu'on le voit dire à David que Uri est mort, tu vois ce qu'il a dit? Mais l'épée frappe tantôt l'un, tantôt l'autre. C'est-à-dire, on essaie de minimiser les choses en employant des mots humains, mais cela déplaît fortement à Dieu. Pour les sœurs en Christ, on peut tomber dans une faute de manière subite et soudaine. Mais quand Dieu voit que la faute que nous commettons est le fruit de toute une entreprise que nous avons préméditée, et en préméditant cela, eh bien, ça veut dire que nous montrons que nous n'avons pas dans le cœur la crainte de Dieu. Et malgré tout, frères et sœurs en Christ, quand Dieu envoie le prophète vers lui et qu'il se repent, eh bien, laissez-moi vous dire que sa repentance, parce qu'il était objet de l'alliance de Dieu malgré tout, malgré le fait qu'il soit tombé si bas, Dieu avait dit dans son alliance, « Ma grâce ne se retirera pas de lui. » Et c'est dans ce cadre-là que, une fois que la main de Dieu s'est déployée, une fois qu'il a compris l'erreur qu'il avait commise, il s'est repenti. Et regardez avec moi comment sa repentance s'exprime au travers de ce psaume que nous connaissons pour la plupart. Il y a le psaume 51 où nous voyons ce qu'il est amené à dire. Regardez, psaume 51, Psaume 51, verset 3. Même verset 2. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Donc, un peu un résumé de ce que je viens de partager avec vous. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions,
lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Ça, c'est une prière de repentance. Ça vous arrive de faire des prières de repentance devant Dieu? Mais écoutez, répondez-moi s'il vous plaît. Vous arrive-t-il de faire devant Dieu des prières de repentance? Non, vous n'êtes pas très sûr. Mais écoutez, toute l'église va me dire « Oui, pasteur !» Mais oui, ça m'arrive de faire des prières de repentance devant Dieu. La raison, c'est que ma vieille nature me conduit fort souvent à faire ce que Dieu ne veut pas que je fasse. Écoutez, quelqu'un avant nous, avant moi, l'a dit « Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Et quand je fais le mal, eh bien, je demande à Dieu pardon, parce que ma vieille nature me crée dans ce cadre-là des difficultés. Eh bien, David, lui, il a adressé cette prière de repentance à Dieu. Et puis, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Et la raison de cette prière de repentance se trouve mentionnée à partir du verset 5. Le premier verbe, car je reconnais. Ça veut dire que si il est amené à faire une prière de repentance devant Dieu, c'est parce qu'il a. Mais non, c'est pas parce qu'il a péché. C'est parce qu'il reconnaît. Je l'ai déjà fait la prière de repentance. La prière de repentance vient quand j'ai péché. Mais c'est aussi le résultat de ce que je reconnais. Je reconnais mon iniquité. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais. Et lorsque je reconnais, frères et sœurs en Christ, je ne peux pas rester les bras croisés. Je ne peux pas dire non plus Alléluia. Je ne peux pas dire gloire à Dieu. Quand je reconnais, je me repens. Quand je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Et dans ce que nous lisons, mon péché est constamment devant moi. Je pense qu'il voulait faire allusion au fait qu'après que Bathsheba soit devenue enceinte, l'enfant est né. Et lorsqu'il dit « Mon péché est constamment devant moi », c'est parce que l'enfant était là. Le résultat, les conséquences du péché, un enfant était né. Donc il voyait l'enfant. Et quand l'enfant est tombé malade, il a prié Dieu, il a crié à Dieu pour que Dieu délivre l'enfant. Mais Dieu a fait mourir l'enfant. C'est-à-dire Dieu a fait mourir le fruit du péché. Mais lui, il dit, mon péché est constamment devant moi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Ça veut dire que je subirai les conséquences de mon égarement. Oui, oui, il est conscient. Mais ce qui est merveilleux, le chapitre 7 va ouvrir un volet particulier qui n'est pas autre chose que la reconnaissance de ce qu'il est, un être de chair, dans lequel malheureusement le péché a son influence, dans lequel malheureusement le péché a une influence qui, malheureusement alimentée par nos passions, peut nous entraîner à de graves difficultés qui seront accompagnées de graves conséquences. Regardez comment il s'exprime. Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. N'allez pas croire qu'il cherche à s'excuser, ni à se cacher, mais c'est la parole d'un homme qui est réaliste. Ma mère m'a conçu dans le péché et je suis né. Voici, je suis né, pardon, dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Et voici la requête de prière. Première requête de prière en rapport avec la situation qu'il vit. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. En reconnaissant son iniquité, en se repentant de ses péchés, en faisant le constat que sa mère l'a conçu dans le péché et qu'il est né tout entier dans l'iniquité, il demande à Dieu, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. On avait dit qu'il reconnaît que lorsqu'il a été entraîné, victime de la séduction, victime de la tentation, et que malheureusement il n'a rien pu maîtriser comme logiquement en tant que roi d'Israël, connaissant l'Éternel, étant un instrument dans sa main, étant objet de son alliance, eh bien, il reconnaît qu'il a manqué de... Il a manqué de sagesse. Il n'en a pas eu du tout de sagesse. La sagesse, à ce moment-là, était absente. Eh bien, frères et sœurs en Christ, il a eu quelquefois aussi que, comme David, vous et moi, nous manquions de sagesse. Vous remarquerez qu'il ne s'est pas justifié. Car s'il se justifiait, eh bien, c'est comme si il cautionnait son péché. Non. Il a reconnu simplement qu'il avait été une victime, étant né dans l'iniquité, conçu dans le péché, et qu'au moment où il a été entraîné comme un lien indéfectible, c'est un manque de sagesse manifeste. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Et ce matin, mon frère et ma sœur, vous comme moi, c'est une requête de prière que nous devrions adresser à Dieu. Et je dirais bien, lui adresser constamment. Car c'est un domaine dans lequel on n'aura jamais assez. Parce que la sagesse, dans le fonctionnement divin, a pour demeure le discernement. Sagesse, discernement. Et la sagesse qui a pour demeure le discernement possède pour science la réflexion. Réflexion, ça veut dire qu'avant d'agir, on réfléchit. Et c'est le principe même de la sagesse. Écoutez, si vous posez la question à la fourmi, qui est un petit animal, qui cependant est des plus sages, vous savez ce qu'elle fait? Elle n'a ni inspecteur, ni chef, ni maître, mais cependant, elle amasse la nourriture au temps chaud, en prévision de la rigueur de l'hiver. Qui c'est qui le lui a dit? Personne. Dieu le lui a donné naturellement. Mais oui. Et si Dieu donne naturellement à une fourmi ce qui lui confère la capacité au temps chaud de faire des provisions pour l'hiver, l'apôtre Jacques nous dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, il la demande à Dieu. Et il va vous la donner, parce que Dieu n'est pas simplement là pour entendre ce que nous lui demandons. Car si je demande la sagesse à Dieu, c'est parce que je reconnais que j'en manque. Et si je manque de sagesse, je manque aussi de discernement. Et si je manque de discernement, mais la réflexion aussi que je devrais avoir comme découlant de la sagesse me fera aussi défaut. Donc, quand Dieu voit que je lui demande quelque chose qui est utile, comme son enfant, mais non seulement pour moi-même, mais pour que surtout je puisse le servir lui, alors je crois qu'il peut me la donner, et même au-delà de ce que moi j'espère, parce qu'il est Dieu. Il sonde les cœurs et les reins. Dieu voit pas que je demande la sagesse pour me faire voir, pour voir que je suis meilleur que les autres, mais il voit que je lui demande ce qui est utile pour son service, pour ma marche avec lui, comme son enfant, pour le témoignage que j'ai à rendre de sa personne, etc. Donc, reconnaissant premièrement que le péché a son influence dans ma vieille nature, je reconnais aussi que Dieu a créé en moi, par Jésus-Christ, un homme nouveau. Alors je reconnais que Dieu peut aussi développer à partir de cette œuvre en moi, l'homme nouveau, une sagesse, il va me donner aussi à fonctionner avec de l'intelligence renouvelée,
va m'amener aussi à la réflexion, m'amener au discernement, et ainsi, je pourrai m'éviter, par la grâce que Dieu me fera, beaucoup de difficultés et quelques tribulations qui malheureusement seraient nocives et néfastes pour mon âme. David l'a reconnu. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Alors, mon frère, ma sœur, ce matin, je puisse te poser la question dans ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ, avec Dieu, est-ce que tu lui demandes de te donner de la sagesse? Il y a quelques-uns qui disent amen, les autres ne savent pas où ils en sont, mais dans ce cadre-là, eh bien, Dieu sonde nos cœurs et nos reins, hein, mais il écoute aussi nos prières. Et s'il nous parle ainsi ce matin, c'est pour nous exhorter chacun à prendre cette direction dans l'intercession, dans la prière. Seigneur, fais donc pénétrer ta sagesse, ou développe ta sagesse en moi. Donne-moi plus de sagesse, mon Seigneur, pour que je puisse m'éviter des difficultés, des problèmes qui, malheureusement, bien sur le chemin de ma persévérance, peuvent bien se retrouver comme des obstacles pour m'empêcher d'aller de l'avant comme toi, tu as résolu et que tu veux pour ma vie. Frères et sœurs en Christ, n'oublions pas que ces choses ont été écrites pour notre édification, pour notre enseignement, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ceux qui nous ont précédés. Alors j'ai toutes les conditions réunies dans les Saintes Écritures, et à partir du moment que je comprends ce que Dieu veut que je saisisse et que je le fais, Dieu m'appelle déjà sage, il m'appelle intelligent, et il se plaît à accomplir par sa grâce ce que moi je lui demande, non pas pour moi, mais pour sa gloire. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Et puis, il descend un peu plus bas. On va voir verset 11, ce qu'il déclare. Détourne ton regard de mes péchés et efface toutes mes iniquités. Donc, ça veut dire que lorsqu'il lit toutes mes iniquités, et il est aussi conscient qu'il y a, comme cela est dit ailleurs, pardonne-moi tout péché que j'ignore. Parce que vous savez, en nous, il y a des choses que nous connaissons, mais il y a des choses que nous ne connaissons pas. Alors il dit, efface toutes mes iniquités. Nous voyons qu'il les met au pluriel. Ne voulant minimiser aucun. Peut-être certainement qu'il en a oublié. Et ailleurs, dans un autre contexte de l'écriture, il est dit, pardonne-moi tout péché que j'ignore. Mais là, il continue, verset 12, il demande à Dieu aussi ce qui est quelque chose d'important pour vous, pour moi, ce matin de posséder dans ce culte que nous sommes venus lui rendre. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, et après, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et vous verrez que c'est la même phrase, hein. Ce sont des choses qui sont associées entre elles, comme entrant dans un ensemble. Ô Dieu, crée-moi un cœur pur. Nous sommes d'accord. Crée-moi un cœur pur, virgule, à ponctuation, et renouvelle en moi un esprit bien disposé, point. Donc c'est la même phrase. J'avais dit, il est en train d'associer le cœur pur et l'esprit bien disposé, ou le cœur bien disposé et le cœur pur. Ce qui nous montre, frères et sœurs en Christ, en s'en faisant, nous, ce matin, chacun une application personnelle, il y a une relation entre le cœur pur et l'esprit bien disposé. Ça veut dire que mon cœur ne sera pas bien disposé, mon esprit ne sera pas bien disposé si mon cœur n'est pas pur. Et lorsqu'il parle de cœur pur, c'est pas simplement le muscle qui lui fait vivre, hein. En fait, dans l'écriture, le mot cœur, c'est pas un muscle, mais c'est cet ensemble en moi qui serait le principe de la vie consciente de mon être, avec mon âme, mon esprit, et j'y associe ma conscience.
Frères et sœurs en Christ, mes bien-aimés, est-ce que vous me suivez toujours?
Oui, pasteur, on vous suit très bien. Ah, vous êtes de bons élèves. Et nous sommes tous à l'école du maître, n'est-ce pas?
Parce que lorsque le Seigneur nous parle de cœur, un cœur pur, un esprit bien disposé, c'est pas le muscle qui pompe le sang et qui l'envoie dans mon corps. Mais c'est ce lieu en moi, et je voudrais même, si vous le permettez, si j'avais un schéma devant moi, je vous ferais un peu le principe qui découle de ce que je vous dis. Voulez-vous que je fasse le schéma? Vous allez me suivre dans le schéma? Oui? Vous êtes sûr que vous allez me suivre? Alors, prenons trois cercles circoncis. Mais je dis circoncis, c'est trois cercles l'un dans l'autre. Le cercle extérieur, le plus large, ce serait le corps. Le deuxième circoncis à l'intérieur du plus grand, ce serait notre âme. Et le troisième, le plus petit, ce serait notre esprit. Esprit, âme et corps. Vous suivez toujours. Mais tout partirait du centre, l'esprit. Et si l'esprit est bien disposé, alors l'âme va s'incliner. Et quand l'âme s'incline, le corps suit. Car quand se forme un désir en moi, c'est mon âme. Ah oui, l'âme se forme dans le désir. Le désir se forme dans l'âme. Et à partir de ce que l'esprit comprend, l'âme va suivre. Je vous parle de choses qui semblent complexes, mais quand nous avons cru pour le salut, le Seigneur a d'abord brisé notre âme. Oui, la prédication de l'évangile a eu pour priorité première. Après que j'ai entendu dans mon oreille, mon âme s'est inclinée. Mon esprit a consenti. Il s'est sorti par ma bouche, « Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. » Donc, frère et sœur, c'est un principe actif dans l'être humain que je suis et qui a besoin constamment que le travail de Dieu part de l'esprit, la partie intérieure en moi, pour que ça se produisent à l'extérieur et ça se voit. Écoutez, je vais simplifier, vous allez comprendre. L'apôtre Paul aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 6, 19, nous rappelle ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que vous avez reçu de Dieu? Et que vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Alors à cause de cela, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Cela veut dire qu'il part de l'extérieur, le corps, pour nous amener à entrer au plus profond de notre être, notre esprit. Pourquoi dit-il cela? Parce que c'est dans l'association du Saint-Esprit avec mon esprit que mon corps va suivre. Ben oui, mon corps ne peut pas suivre si à l'intérieur, il n'y a pas une association du Saint-Esprit avec mon esprit qui va me communiquer la pensée de Dieu, la parole de Dieu, le désir de Dieu, le dessein de Dieu pour ma vie. Cela veut dire, c'est un travail, frère et sœur, en Christ, qui est spirituel. Et dans ce cadre-là, le succès, la réussite est assuré quand le spirituel domine sur le naturel. Quand ce qui est divin domine sur ce qui est humain. Ma chair ne se soumettra jamais si spirituellement à l'intérieur le travail n'est pas fait. Et quand le travail est fait, alors, certes, il y a des combats qui se livrent, mais le Seigneur triomphe toujours. Oh, que Dieu triomphe en nous ce matin! écoutez, frères et sœurs en Christ, c'est pas parce que je suis pasteur, mais j'ai constamment besoin que le Saint-Esprit triomphe en moi. Triomphe de ce qui est humain en moi. Pour que je puisse faire ce que Dieu veut que je fasse. Et par rapport à ce que je vous dis ce matin, frères et sœurs en Christ, je vous livre mes secrets, hein, ça fait rien. Hein. Ce matin, je suis devant mon Seigneur en prière. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que je donne à tes enfants? Et puis le Seigneur me conduit dans ce que nous partageons ce matin. J'arrive dans mon bureau, je suis en train de voir, et puis je dis, mon Seigneur, avant, je commence un sujet sur les conditionnels divins, j'ai encore quelques points à voir avec l'Église, je veux le finir ce matin. Je viens en chair, je n'ai même pas fait les annonces pastorales. Depuis que je suis là, vous savez, le Saint-Esprit m'a pris en main et il ne m'a pas lâché. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut nous communiquer sa pensée. C'est ça, sa pensée. C'est pourquoi je vous dis que s'il n'y a pas une association du Saint-Esprit avec mon esprit, je ferai les choses. Mais elles ne seront pas faites comme Dieu veut qu'elles soient faites. Et ce matin, là, il y a une persuasion dans mon cœur que ce que nous partageons, c'est la pensée de Dieu pour nous ce matin. Voilà pourquoi je m'incline devant sa face. Je m'humilie parce que notre vieille nature est toujours champion pour nous amener où Dieu ne veut pas. Tandis que l'Esprit, eh bien, le Saint-Esprit s'associant à mon esprit va m'amener à faire ce que Dieu veut. C'est ça. C'est ça qu'il veut expliquer. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Or, ce matin, vous comme moi, nous avons besoin que notre cœur soit purifié par le muscle, hein, le lieu en moi qui serait le principe de la vie consciente de mon être, mon esprit, mon âme, tout ce qui est spirituel en moi. Parce que l'âme, c'est spirituel et l'esprit, c'est spirituel. Et le Saint-Esprit arrive dans cette association et commence à travailler pour que je puisse de plus en plus, eh bien, accepter ce que Dieu dit, faire ce que Dieu veut que je fasse, et c'est à ce moment-là que l'obéissance requise arrive. Oh, des fois, ma chair veut mettre son grain de sel, laisse-moi dire, elle s'oppose, elle résiste, mais le Seigneur triomphe parce que c'est lui qui est Dieu. Oh, s'il n'a pas triomphé ce matin, il va triompher la prochaine fois. Parce qu'il reviendra toujours à la charge, frappera sous le même clou, jusqu'à ce que j'ai compris ce qu'il veut que je comprenne. Écoutez, c'est lui qui a commencé en moi cette belle œuvre, hein. Et il a poursuivi pour le jour de Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous ai dit que même au dernier souffle, Dieu aura quelque chose à continuer à faire en moi. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que vous avez reçu de Dieu, qui est en vous, et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Pourquoi? Vous avez été racheté à un grand prix. Alors glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Crée-moi un cœur pur ce matin, mon Seigneur. Et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et puis, pour conclure, c'est le verset 14. Le verset 14 où il dit, c'est une requête de prière encore, hein. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'est-ce qu'il rajoute après? Ah, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Ça veut dire que, lorsqu'il dit qu'un esprit de bonne volonté, ailleurs l'apôtre dit que la bonne volonté, quand elle existe, n'est agréable qu'en fonction de ce qu'elle a à sa disposition. Non pas en ce qu'il n'a pas. Ça veut dire que quand j'ai la bonne volonté, quand mon esprit est renouvelé, le Saint-Esprit en association avec mon esprit mettra toujours un verset biblique de conséquence. Une parole de Dieu appropriée. Oh là 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 là, mes frères et mes soeurs. Mais c'est ça le travail que Dieu a commencé en moi, en toi, en nous. Et qu'il poursuit jour après jour. Soit que je dorme, soit que je vive, Dieu continue son travail. Mais moi, une fois que Dieu a renouvelé mon intelligence, vous savez ce que je fais? J'adhère.
Et en adhérant, je fais comme David. Je suis né dans l'iniquité, c'est vrai. Ma mère m'a conçu dans le péché, mais comme toi tu veux que la sagesse soit au fond du cœur, fais-la pénétrer au-dedans de moi. Crée-moi un cœur pur, mon Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Cela veut dire, Seigneur, mon Dieu, eh bien, que ce soit ce que toi tu veux qui s'opère en moi. L'apôtre a dit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. La volonté, je l'ai. Mais c'est pas la volonté qu'il me faut. Il faut que le Saint-Esprit me donne un esprit de bonne volonté. Vous savez, frères et sœurs en Christ, je me faisais comprendre, Claude, il y a une différence entre mener la belle vie et mener la bonne vie. Ah ben oui. Ah, monsieur Chassé Dissel a chanté, oh la belle vie. Oh, je ne vais pas vous le fredonner. On ne sait que moi. Sans problème, sans souci. Mais ça, c'est humain, ça. Tandis que lorsque Dieu me demande de mener la bonne vie sera accompagnée d'un esprit de bonne volonté. Parce que la bonne vie, la bonne volonté, c'est ce qui est conforme aux Saintes Écritures. C'est ce que le Saint-Esprit va tirer de l'Écriture, qu'il va mettre en moi, dans mon cœur. Je ne parle pas du muscle, mais de celui en moi. Il y a mon esprit, il y a mon âme, pour paraître à l'extérieur, mon corps, c'est-à-dire dans mes actes. Ouh ! Que personne ce matin ne dise que c'est difficile. Non. C'est l'école de Dieu. Dans cette école, Dieu ne considère pas que nous sommes des élèves surdoués, mais des élèves que lui enseigne. Et lorsqu'il nous enseigne, il nous rend capable de comprendre ce qu'il nous dit, il nous rend capable de garder ce que nous avons compris, et son Esprit Saint maintenant, en association avec mon esprit, va me donner progressivement à faire ce que lui veut. N'est-ce pas mon grand? Voilà, mon petit frère est attentif à ce que le Seigneur dit. Alors mes bien-aimés, le temps galope à grands pas. Prions le Seigneur.